Plein en glam, signé Cindy Lee. Puis à 13h, je reçois l'autrice de BD, Catel. Vous êtes sur France Culture et il est bientôt midi. Les titres de l'actualité de ce vendredi, c'est avec vous Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Marie. C'est un événement jamais depuis un quart de siècle en France. Le parc nucléaire n'avait connu de nouveaux couplages. Ce sera le cas en fin de journée avec le raccordement de l'EPR de Flamanville au réseau national. Mais on le verra pas forcément au moment le plus opportun. Après le verdict hier au procès dit des viols de Mazan et dans l'attente de celui sur l'assassinat de Samuel Paty, aujourd'hui on se demandera jusqu'à quel point ces deux affaires retentissantes marquent une étape importante pour l'institution judiciaire. On en parlera avec notre invité, l'ancien magistrat Denis Salas. Et puis l'actualité à l'étranger, la chute du régime de Bachar al-Assad, tout d'abord, continue de soulever de multiples doutes quant aux intentions réelles des nouveaux maîtres de la Syrie. Enfin, on reviendra sur le coup de poker raté de Donald Trump aux États-Unis qui pourrait dès ce soir conduire à une paralysie budgétaire totale.
Merci Thomas Cluzel et on vous retrouve à 12h30 pour le journal de la rédaction.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Bonjour à toutes et à tous, venez prendre place à nos côtés dans les midis de culture. Ça va tanguer avec notre invité à 13h. Je reçois l'autrice de bande dessinée Catel pour son nouvel album consacré à l'intrépide océanographe Anita Conti. Et tout de suite, ça va clasher ou pas ? Avec le débat critique du jour, aujourd'hui au menu de la musique, du hip-hop avec le nouvel album du Californien Kendrick Lamar et la sortie physique d'un album jusqu'ici presque introuvable et donc très convoité, Diamond Jubilee de Cindy Lee. Et pour débattre autour de cette table aujourd'hui, Sophie Rosemont, journaliste, réalisatrice, autrice, bonjour.
Bonjour Marie.
Olivier Lame, critique à Libération, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Price, emotion, no stability, a sound body and tranquility. I deserve it all. Like mines and less enemies. Stock investments, more entities. I deserve it all. Il n'a prévenu personne avant de sortir ce sixième album, effet garanti donc. Kendrick Lamar, rappeur californien, superstar et détenteur d'un prix Pulitzer quand même. Kendrick Lamar donc a sorti GNX le 22 novembre dernier. Pour la petite histoire, GNX, c'est le modèle de la Buick dans lequel on l'a ramené bébé de la maternité. C'est un sentimental ce garçon. Il est déjà numéro 1 sur toutes les plateformes et si l'album en tout cas surprend par son accessibilité, pour autant on est quand même très loin d'une efficacité toute commerciale. On va commencer avec un avis de l'un et de l'autre et c'est à vous Olivier Lame d'ouvrir le bal.
C'est un chouette bilan d'étape d'un artiste qui a la croisée des chemins et on sait pas trop où est-ce qu'il ira après, mais là on va un peu à droite, un peu à gauche, un peu devant, un peu derrière en même temps. Mmh. Et ça crée un truc pas inintéressant.
Sophie.
Comment affronter l'adversité et conjurer son anxiété avec le groove et un album imparable. Kendrick Lamar, le meilleur rappeur américain actuel, de très loin.
C'est définitif. Alors on va tout de suite vérifier ça avec un morceau que vous avez choisi, Sophie Rosemont, et c'est Squabalope.
God knows I am reincarnated, I was stargazing, life goes on, I need all my babies. Woke up looking for the broccoli, keep a horn on me, that could my seat. Ownership, the blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet. But you nigga couldn't try me in a tri-state. Money pass, but I get him splashed till he hydrated. Bounce out, know he spook town, eyes dilated. I got the money and the power, both gyrated. I feel good, get the fuck out my thighs. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with the size.
GNX, Kendrick Lamar sur le label, son label d'ailleurs, pardon, PJ Lang, c'est ça, PJL Lang, Lang, Interscope Records. Sophie, pourquoi ce morceau ?
Pourquoi ce morceau ? Alors, tout simplement parce que c'était le single. Moi, j'aime tous les morceaux de cet album, que je trouve vraiment extrêmement réussi. Certains me touchent particulièrement, comme celui qu'on a écouté là, au tout début de cette table critique, Man in the Garden, où il dit « I deserve it all », j'ai tout mérité, c'est-à-dire j'ai mérité tout ce que j'ai construit, toute la reconnaissance que j'ai, malgré vous, vous qui êtes contre moi, le monde, moi-même également, parce que Kendrick Lamar est quand même quand même un être assez ambivalent. Il est Gémeaux, ne l'oublions pas. voilà, petit point astrologique. Et donc, Squabalov, qui veut dire s'embrouiller dans l'argot de Compton, d'où il vient. Et puis, bon, le clip en plus est assez formidable. On voit à la fin du clip un très bel hommage à Isaac Hayes. Il reprend la couverture de Black Moses, un album ô combien emblématique d'Isaac Hayes, le roi de la soul et une des grandes figures du Black Power des années 60-70. D'ailleurs, c'est un disque qui parle aussi beaucoup d'héritage. C'est un disque intimiste ou qui s'inscrit dans le sillage, on est quand même obligé d'en parler, de ces diss tracks, c'est-à-dire ces morceaux de querelles, d'embrouilles aussi, avec d'autres rappeurs, enfin, notamment Drake, tout le monde en a parlé beaucoup. Là, cet album règle les comptes et dès le début, il rappelle qu'on a vandalisé une fresque murale à son effigie et donc il va répondre. Et là, tout le monde en prend pour son grade, tous ceux qui, pas seulement qui s'élèvent contre lui, mais qui sont mesquins, qui sont sournois, etc. Et donc, il balance un peu, mais c'est pas du tout un album. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est pas forcément, justement, ad libitum, la distraction. C'est montrer qu'il est quand même au-dessus de la mêlée. Et d'ailleurs, dans ce morceau d'ouverture, il rappelle que franchement, il y a plein d'artistes, mais ils sont dépassés. Et oui, effectivement, ils sont dépassés par rapport à Kendrick Lamar, qui, depuis son premier album, propose un rap qui est extrêmement hybride, qui est nourri de aussi bien du funk de Chicago, de G-funk de la Californie, de jazz, de blues, de gospel. Là, il fait intervenir une chanteuse mariachi. Donc, il y a vraiment une densité, je trouve, sonore qui est extrêmement forte chez Kendrick Lamar. Et puis, il y a ses textes qui lui ont valu aussi prix Pulitzer, où il est extrêmement intime. Donc, il y a évidemment la foi, c'est quelqu'un de très croyant, donc il converse avec Dieu, on l'entend. Et puis, le sens des punchlines. Et donc, cet héritage donc, qui est aussi, bon, la référence, bien sûr, à son père, qui l'a ramené de la voiture dans cette Buick, mais l'héritage aussi afro-américain descendant. Dont il parle dans Reincarnated, où il parle de toutes ces artistes du Shitlin Circuit, leurs réussites, leurs excès, leurs addictions. On parle aussi beaucoup de cet album de Kendrick comme une lettre d'amour à la Californie. C'est vrai que c'est un album made in Compton. Il revendique ces origines-là. Il ne faut pas oublier que c'est à Compton qu'il a eu une révélation quand un clip a été tourné de Tupac Shakur. Tupac qui sample dans cet album. Tupac qui est un artiste extrêmement important pour lui, qui était engagé, qui était poète. Tout comme Kendrick l'a marlé. Et Kendrick, une fois encore, avec ce disque, montre qu'il concilie ce rap funky, groovy de la Californie avec le rap conscient de la côte Est, hérité de cet exode rural qui avait eu lieu aux États-Unis au tout début du XXe siècle, quand voilà, la révolution industrielle avait poussé les anciens esclaves du Sud à aller vers Détroit, Chicago, New York, et donc à exporter plutôt le jazz, le gospel. Donc toute cette histoire se retrouve là, réincarnée, littéralement, et comme il le chante, comme il l'incarne, Kendrick Lamar. Donc moi, je et puis en plus, voilà, on danse, les mélodies sont imparables, il a toujours ce phrasé, la capacité de prendre plusieurs, de jouer avec les modulations de tempo, les modulations vocales, enfin vraiment, pour moi, c'est un de mes grands disques de l'année.
Olivier Lam, vous disiez croiser des chemins, vous.
Oui, je vais revenir un peu sur les dithyrambes de Sophie, pas forcément parce que je suis pas d'accord sur la qualité du disque. C'est vrai que on est dans une année où le rap vraiment va pas très bien, le rap américain va pas très bien, et voilà, Kendrick Lamar avec un disque de pop qui est un disque de rap, simultanément, et qui est un vrai disque grand public très intéressant. Mais sur les thématiques, et notamment sur cette guéguerre de la couronne, et de, je pense qu'il n'est pas aussi catégorique sur le fait qu'il se situerait en haut de la pyramide ou je ne sais quoi. Son album précédent, Mr. Morale and the Big Steppers, était vraiment un disque de schizophrénie, si je peux dire, où il mettait en scène littéralement ces deux pulsions qui est en gros l'égotiste et le lubristique, si on peut dire. Je sais pas si c'est l'adjectif qui existe, et en même temps c'est celle du doute, et celle qui évidemment est la marque de quelqu'un qui évidemment se pose des bonnes questions, et pas seulement parce qu'il est devenu richissime, parce qu'il est devenu extrêmement populaire, etc. C'est quelqu'un qui a gardé, on va dire, des racines vraiment très profondément ancrées dans le quartier de Los Angeles démuni où il a grandi, et ce disque là est vraiment, je pense, presque balafré par le clash avec Drake. On en a beaucoup parlé, mais il revient lui-même.
C'est important, ça.
C'est très important parce que je pense que c'est vraiment un moment de bascule dans l'histoire du rap américain récente, parce que c'est le moment. Bon, alors évidemment, ça crée. C'est pas très intéressant parce qu'on a deux rappeurs milliardaires qui s'embrouillent sur des choses totalement ridicules. Et en même temps, ça montre un peu toutes les arrière-pensées un peu négatives du rap et de la culture rap à un moment où il est, on va dire, il est quasiment monoculturel aux États-Unis, et c'est le moment où évidemment ça marque la bascule, le moment où il perd un peu de cette omniprésence, de cette ce sentiment d'omnipotence, et le disque est plein de références à ça, sans doute à mon goût pas suffisamment de culpabilité. La culpabilité, Kendrick Lamar, il la place ailleurs, parce que dans les faits, ce qui s'est passé est absolument abject, enfin on peut le dire, enfin on a quand même eu des ce qui est sorti de la bouche de ces superstars de la musique et de ces superstars médiatiques est totalement indécent. Donc je trouve que c'est très intéressant qu'il fasse un disque de grand moralisateur juste derrière, parce que c'est Kendrick Lamar, et ça, moi, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'arrive pas à être complètement emporté par ses disques. J'ai une admiration, mais qui est un petit peu, on va dire, distanciée. C'est qu'il a ce côté moralisateur qui le rend assez antipathique, touchant, mais antipathique. Et c'est un vrai donneur de leçons, dans un sens presque conservateur du terme. Et ça peut être un petit peu. Ça peut être un petit peu repoussant, je trouve, que quand on a envie de complètement se fondre dans l'ego de quelqu'un d'autre. Moi, je suis beaucoup plus touché, par exemple, par quelqu'un comme Tyler, The Creator, qui a sorti un disque exceptionnel il y a quelques semaines, et qui, dans son rapport, on va dire, dans sa manière de mettre en scène, en fait, son intimité, je trouve beaucoup plus émouvant. Là, on est entre l'ego trip et aussi l'égotisme. Et voilà, et l'égotisme du rappeur le plus célèbre dans le monde, ça donne quand même un sentiment un petit peu étrange. Je dis ça pour amener un peu de dialectique dans notre débat, parce que moi je suis pas partie prenante de ce côté victorieux, et je trouve que par ailleurs ce disque là n'est pas un disque de victoire revendiquée. C'est un disque vraiment au contraire de d'état d'âme par rapport à cette victoire un peu naze, notamment suite à ces échanges de chansons très 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 agressifs avec Drake, où il a quand même fini par traiter Drake et son entourage de pédophile. Et on peut dire que c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on a plus le droit de le dire, c'est quelque chose de très grave. Ouais. Et je pense que, et moi, le voir un peu parader dans ce clip, le clip qu'il a sorti il y a quelques mois du dernier morceau qu'il a sorti, quand j'ai un trou, merci. Et moi, m'a mis vraiment très mal à l'aise. Évidemment, il a transformé, en fait, cette espèce de mot final, voilà, dans l'embrouille, en espèce de grande fête collective avec son quartier, la côte ouest, cette espèce de plaisir à mettre en avant une culture très, encore une fois, très très ancrée dans un territoire, dans une histoire, etc. Et en même temps, ça arrive suite à des espèces de pseudo-révélations complètement hallucinantes.
Sophie Rosemont,
c'est moi qui suis mon réalisateur.
Comme je disais, exactement, j'allais dire, mais enfin, le donneur de l'arroseur arrosé. Non, mais déjà, moi, ce côté moraliste qui a toujours été là, hein, chez Kendrick Lamar, et d'autant plus, voilà, CF confère son avant-dernier album, ne me dérange pas du tout. Je trouve qu'au contraire, ça peut manquer. Et pourquoi pas être moraliste? Moraliste, c'est pas un défaut. Alors, donneur de leçons, c'est encore autre chose. Mais comme je le disais au tout début, il y a ce contraste. Conjurer l'adversité et sa propre anxiété avec
quelle adversité,
du fanfare. Le fait que quand même on efface son effigie, il se sent agressé, qu'on lui dise qu'il n'a pas mérité là où il en est, qu'on critique, on va dire, sa dextérité musicale. Il a le droit de se défendre. Après, il s'est senti aussi pas forcément soutenu par les artistes qui l'entouraient depuis le début, comme Snoop Dogg, etc. Bon, voilà, il a un trop-plein d'émotions, et je trouve ça très intéressant que ce trop-plein d'émotions sorte de ce côté, avec ce côté effectivement fanfaron, mais je dirais pas du tout victorieux, car il ne cesse aussi de dire oui, je l'ai mérité, mais d'un côté, je suis pas assez bien, est-ce que je mérite vraiment d'échanger avec Dieu, est-ce que ça, j'ai pas déconné, bon, j'essaie quand même d'assurer avec mes enfants, mais voilà. Et il rappelle aussi le nombre de morts noirs américains, c'est quelqu'un qui est hanté par cette histoire-là, qu'il en parle sans forcément jouer de la protest song. C'est plus subtil que ça. Donc, une fois encore, il est Gémeaux, donc il a plusieurs faces. Non, mais c'est vrai que là, c'est ce côté très multifacette qui se retrouve dans sa musique, se retrouve dans lui, sa personnalité, où il peut dire à la fois tout et son contraire. Et c'est ce que j'aime chez lui. À un moment donné, on peut parler de discours souvent rodés, où il y a quelque chose, une ligne conductrice, voilà, qui ne bouge pas, une autoroute. Lui, c'est une autoroute où parfois il sort tout d'un coup, voilà, d'un embranchement à toute vitesse, ou alors au contraire, il s'arrête sur le bas de la route et il pleure. Moi, je trouve ça extrêmement émouvant. Je trouve que c'est un album à la fois hyper immédiat, où il y a quand même des belles ballades, celle de Loser avec CZ, qui est quand même chanteuse vraiment formidable. Hommage à Luther Vandross, qui était un peu plus sensuel et hédoniste. Et puis, effectivement, des morceaux beaucoup plus agressifs, des go-trip, mais les go-trip a toujours fait partie du rap, et d'ailleurs des Isaac Hayes et Shaft.
JNX, pardon, de Kendrick Lamar sur le label PJ Lang Interscope Records. Sophie Rosemont, vous aviez la parole. Vous buvez un petit coup.
Tout à fait.
On va parler de votre coup de cœur. Et votre coup de cœur, c'est Mickey.
Oui, c'est Mickey. Alors, les gens qui boivent des bubble tea me dégoûtent. J'en fais partie. Oreo Mélancolie. Voilà. On parlait de Punchline il n'y a pas longtemps. On en a pas mal avec Mickey. Pourquoi il me tient à cœur de parler de cette vraiment chanteuse qui a toute récente, qu'elle a quand même beaucoup fait parler d'elle grâce à sa performance au Transmusical de Rennes, c'est qu'elle essuie quand même pas mal de critiques. Donc elle a émergé grâce à Internet, c'est vrai, elle a été signée par les anciens créateurs d'Initial qui avaient repéré Edith Preto, Clara Luciani, Angèle, donc on se dit « Ah bah c'est la nouvelle Angèle ». Non, Mickey, c'est pas la nouvelle Angèle. Ensuite, elle a et j'aime beaucoup Angèle, ensuite elle a qu'est-ce qu'elle propose comme musique ? Une pop très do-it-yourself, assez trash, qui s'inscrit plutôt dans un sillage anglo-saxon de Charlie XCX, par exemple.
On va l'écouter et puis on continue à parler. Allez.
À 19h, j'ai bloqué sur un mec. 19 mois pour qu'il me sorte de la tête. Le glaçon à la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas passer mes sons. En même temps, je refais la même devant une meuf qui est aminée, pâteuse, pétasse, qui lui parle comme un moniteur de plan de vacances. Genre qu'avec des geekos, des dilos. Car je kiffe les mecs qui sont pas qu'addictables. Mais j'avoue, j'ai vu la limite. Le dernier m'a poussé à bout de mes sentiers vomitifs. Chaque est mat. À deux doigts d'un échec. Et mat, moi je fais chaque et mat. J'aurais vraiment tout fait. Chaque et mat. Et puis, on fait pas tech. Et chaque et mat. J'aurais vraiment tout fait.
Mickey, échec et mat.
Oui, bah, ça trotte dans la tête. Pour moi, je trouve ça vraiment imparable. Donc 26 ans, père français, mère coréenne, tous deux galeristes, formé dans une école de cinéma, sait chanter, mais là cultive quelque chose de plus phrasé qui vient immédiatement. Un peu plus loin dans ce morceau, elle parle d'un visage collé sur la plaque de la cuisinière, en parlant de cet homme. D'ailleurs, elle a dit au bout de mes antivomitifs, c'est quand même très fort. Dans un autre morceau, d'un prof de tennis qui la touche là où il ne faut pas la toucher. Donc en fait, mine de rien, Mickey aborde des sujets qui sont extrêmement importants. Et je pense que l'actualité nous le prouve tous les jours. Et avec ce côté, voilà, pop do it yourself, mais qui... Mickey. Pourquoi ça me tenait à cœur de parler d'elle? Non seulement parce qu'elle va remplir l'Olympia, qu'elle va remplir la Gaîté Lyrique et que 2025 va être son année, sa révélation, mais aussi parce que voilà, ces critiques qu'elle a essuyées, que j'ai trouvées vraiment purement misogynes. Si ça avait été un homme, on aurait dit « Oh, c'est du douillet sur soi, il est hyper... Oh, il bricole, c'est vachement bien ». Tout de suite, là, on parle d'elle comme d'une nouvelle Angèle ou d'un produit façonné par l'industrie de la musique. Ce n'est pas du tout le cas, il suffit d'écouter ses paroles. Et c'est pas parce que ses mélodies sont extrêmement accessibles, tubesques, parce que là, on tient des tubes, hein, hip-hop, clairement, que son travail n'en vaut pas le détour. Et je crois qu'on en est qu'au début. Donc vraiment, Mickey, artiste à suivre.
Mickey, on vient d'écouter Échec et Mat.
J'ai l'âme.
Le son un peu sale mais beau de Cindy Lee. Cindy Lee, c'est une drag queen. Elle est le double, l'alter ego du musicien canadien Patrick Flegel. Et cet album, Diamond Jubilee, est un ovni. D'abord, il compte 32 plages pour 5 heures d'écoute. Ensuite, il n'est pas sur les plateformes de streaming. Le manque créant le besoin, il était très recherché. Le voici désormais sur le site de vente de musique en ligne Bandcamp. Et à partir de février, il bénéficiera d'une sortie vinyle. Pour le reste, la musique de Cindy Lee se balade d'un rock 50s au son distordu à la folk cotonneuse matinée de glam. Et elle est aussi une merveilleuse guitariste. On commence avec un avis, Olivier.
All bangers, no fillers. C'est une expression anglo-saxonne que j'aime bien. Ça veut dire que des tueries, rien pour remplir, quoi. Enfin, pas de remplissage.
Parfait. Sophie.
Un voyage en forme de rêve. Voilà, il m'embrouille avec ces anglicismes, Olivier Lam. Un voyage onirique, dont on a vraiment beaucoup de peine à se réveiller, dont on n'a pas envie de se réveiller.
On va écouter un morceau que vous avez choisi, Olivier Lam, All I Want Is You. All I got is the truth. All I want is you. Olivier Lam, rien à jeter sur ces 32 plages.
Non, et c'est la preuve que l'excès et la démesure, la disproportion peuvent aussi mener au paradis. Pourtant, c'est quelque chose qu'on critique beaucoup, hein, cette pulsion de l'artiste à faire plus trop. Là, l'album s'appelle Diamond Jubilee. Je pense que c'est un hommage à l'histoire du rock, 75 ans, si je ne dis pas de bêtises. Mais pas du tout comme un hommage rétro, ou alors dans le sens où le rétro serait une pulsion névrotique. Et là, on est vraiment complètement là-dedans. C'est un disque qui est vraiment formidable. Parce que notamment, je vais le dire quand même, on va dire dans le contexte de 2024 qui est en train de se terminer, parce que ça a fait l'effet d'une disruption, hein, voilà ce terme qu'aiment beaucoup les gens qui nos petits satans du capitalisme. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment où on avait l'impression qu'on pouvait plus sortir de la monoculture Taylor Swift. On avait un nouvel album de Taylor Swift qui durait 2 heures, et là sur un tout d'un coup, tout le monde se met à parler d'un disque enregistré, autoproduit entièrement par un musicien de canadien qui l'a enregistré quasiment tout seul avec un peu d'aide d'un ami batteur. 32 morceaux de plus de 2 heures de musique enregistré avec un son effectivement à la limite de tout le temps nous blesser un petit peu les oreilles, mais tout en nous emmenant dans un monde parallèle, et cette impression que tout est permis, et surtout qu'on peut de nouveau rentrer dans la culture musical au sens le plus noble, en faisant ça complètement dans son coin, en mettant un disque sur un site du web 1.0, sur un vieil hébergeur que tout le monde a oublié, et quand même tout d'un coup rentrer dans la culture et devenir faire un événement culturel juste avec 32 chansons toutes formidables. Voilà, et ça c'est un événement culturel que moi j'attends, puisque le rock alternatif, ou le sens alternatif, c'est-à-dire comme une voie alternative en fait au mainstream, ce mainstream qui est devenu qui a jamais été aussi puissant culturellement et n'a jamais été aussi violent aussi à l'égard des artistes on va dire émergents ou même qui sont là depuis des décennies mais qui galèrent plus que jamais. J'attendais moi quelque chose qui vienne un petit peu remettre un petit peu une sorte de binarité dans le monde de la musique et de la création. Et là on a la preuve, si ce n'est que ce garçon ne va sans doute pas gagner beaucoup d'argent avec ce disque, mais en tout cas rappelle que la création n'appartient pas que à ceux qui ont tous les capitaux en main, ça appartient aussi aux gens qui n'ont rien, et ça c'est très important, et ce disque est un pur cadeau fait au monde, quoi.
Sophie Rosemont, Patrick Flegel, donc qui est l'alter ego de Cindy Lee, d'où il vient, qui est cette personne?
Alors j'ai réalisé ce matin en réécoutant un album que j'aime beaucoup de Woman, qui était son groupe canadien Public Strain, qui était vraiment un album magnifique, qu'il avait 14 ans ce disque. Donc ça fait quand même longtemps que Patrick Flegel officie sur la scène nord-américaine, on va dire. Et d'ailleurs, on va l'entendre aussi sur un des très beaux albums de 2025, de Panda Bear, où il joue plusieurs fois de la guitare et notamment sur un titre qui s'appelle Defense qu'on peut d'ores et déjà écouter. Donc c'est un musicien qui a voilà bien des projets, donc notamment Woman qui avait périclité et c'est le sixième album hein, de Cindy Lee, donc il n'en est pas du tout à son coup d'essai si on peut dire, mais là c'est vrai que c'est un disque voilà, je persiste dans l'esprit de Noël de cadeau d'Olivier Lam. C'est vrai que c'est un cadeau parce que je crois que pour même ceux qui pensent ne pas être amateurs de rock au sens large, parce que là aussi on est dans quelque chose vraiment multifacette, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup, bon, moi c'est un de mes groupes vraiment très voilà préféré au monde, du monde entier, tout ce que vous voulez, le Velvet Underground bien sûr, là on, oui. C'est évident, mais aussi les Beach Boys, Burt Bacharach, Nancy Sinatra, il convoque aussi toutes ces actrices hollywoodiennes qui ont été effacées dès qu'elles dépassaient un certain âge, qui ont disparu.
De quelle façon ?
Beaucoup de choses. Bah en fait, je trouve que voilà dans l'effacement parfois qu'on entend dans certaines musiques, dans les voix qu'il prend, parce qu'alors il faut savoir qu'il y a plusieurs voix. Il peut aussi bien chanter au masculin qu'au féminin. Nancy Lee, c'est l'alter ego drag queen de Patrick Flegel. Donc en plus brouillé, c'est genre moi je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Mais c'est surtout effectivement convoquer le blues, le doo-wop et le blues sous toute vraiment aussi bien le blues hawaïen que nord-américain, le doo-wop, les groupes de filles des années 60, le jazz. La new wave, tout ça avec un son do it yourself, comme on dit, très garage, le psychédélique. En fait, voilà, une fois encore, il rend hommage à cette grande histoire du rock, mais pas forcément le rock, on peut imaginer du riff. Non, la guitare, en plus, à chaque fois, je la trouve extrêmement expressive. Elle apporte parfois de l'euphorie, de la joie, de la sensualité ou de la désillusion. C'est aussi un album qui presque se voit, qui se ressent. Et lorsqu'on arrive au dernier titre, qui s'appelle 24/7 Heaven, qui est instrumental, et qu'il s'arrête, on se sent presque abandonné. On se dit déjà, ça s'arrête parce qu'on a été vraiment hors du temps. Voilà, c'est un voyage atemporel et pourtant très référencé. Car voilà, on pense, comme vous l'avez dit, aux années 50, 60, 70, 80, 90, jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, on est dans une dimension parallèle. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de sortir de ce monde, et tout en restant ancré quelque part dans ce que ce monde devrait être.
Olivier Lam, un dernier mot. Je suis désolé, on est un peu pressé.
Oui, c'est un très grand disque sur l'art comme réciprocité, parce qu'il pose des questions. Voilà, un disque, a priori, fait par quelqu'un tout seul dans sa chambre. On se dit, oh mon Dieu, je vais t'aspirer dans la pure névrose. Et c'est tout le contraire. C'est important, des artistes qui font ce qu'ils veulent et qui changent le monde en faisant ce qu'ils veulent.
Vous pouvez continuer, alors. J'ai dit rapidement, mais on a encore un peu de temps.
C'est aussi un disque, et là pour le coup, je pense qu'il faudrait un peu rentrer dans le détail, mais c'est aussi un disque de drag queen.
Mais qu'est-ce que ça apporte alors, voilà,
On est sur l'interprétation, sur le fait de sortir de soi-même, le fait d'assumer évidemment une dualité, d'assumer aussi un sens du spectacle, du show.
Enfin, comme Kendrick Lamar.
Qui a été en cabaret à Paris, notamment, on a plein de formidables cabarets de drag, etc. Et a vu ces merveilleuses queens interpréter des grandes chansons de la chanson française dans des versions totalement réinventées et totalement se les approprier. Ça change la culture drag, elle change la culture depuis les profondeurs, et elle évidemment elle remonte ponctuellement pour nous montrer à quel point elle est laide et aussi elle est belle, et on a les deux en fait là-dedans. Et c'est ça qui est absolument merveilleux. C'est un disque d'une très très grande beauté, d'une très grande grâce, et qui assume aussi toutes ces blessures, toutes ces ecchymoses, toutes ces laideurs aussi.
Un dernier mot, Sophie ?
Oui, c'est le glamour est convoqué ici, mais dans ce qu'il a effectivement de plus noble et de plus aussi désespéré à la fois, car il y a quand même, parlons des émotions, certains titres vraiment font monter les larmes aux yeux. Il y a quand même voilà, quelque chose de très très, c'est atemporel et très émotionnel, vraiment. Comme un très grand film de David Lynch, par exemple.
Diamond Jubilee de Cindy Lee, sorti chez Realistic Studio, disponible sur le site Bandcamp. Et en février, on aura la sortie des vinyles, en fait.
Triple vinyle, il n'est pas disponible sur les plateformes de streaming, parce que Cindy Lee refuse absolument que sa musique y soit. Enfin, en tout cas, ce disque-là, les précédents, ils sont, si on veut y jeter une oreille. Sinon, c'est sur YouTube en intégralité, mis gratuitement à disposition par l'artiste.
122 minutes, hein, il faut juste prévoir un tout petit peu le temps.
Ça fait du bien, apparemment, ce temps-là. Merci à tous en tout cas d'être venus dans les Midi de Culture pour partager vos avis. Évidemment, si vous voulez retrouver les références, c'est sur la page des Midi de Culture sur le site de France Culture.
Vous écoutez France Culture.
À 50 mètres de la surface, des hommes tournent un fil, munis de scaphandres autonomes à air comprimé.
Des années 50 aux années 90, le commandant Cousteau a été l'un des grands porte-parole de la préoccupation écologiste. Et pourtant, aujourd'hui, les jeunes générations, pour lesquelles il disait se battre, ne savent plus très bien qui il est.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mais qu'a représenté Jacques-Yves Cousteau ? Nous réinterrogeons son époque en regard avec la nôtre.
Une nouvelle science, l'archéologie sous-marine est née.
Salle des archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Question du soir, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 18h20 et c'est 1h30 d'analyse, de rencontres et de découvertes.
Quentin l'a fait.
Un débat d'abord, débat d'actualité avec des chercheurs et des experts, une discussion ensuite avec un invité qui vient parler de l'actualité de la recherche, de la pensée et des idées.
Question du soir, du lundi au vendredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Bientôt midi et demi, vous êtes sur France Culture à 12h50. On se retrouve avec le Point Culture de Marie Sorbier. Puis à 13h, je recevrai la dessinatrice Catel. Elle consacre son nouvel album à Anita Conti, femme océanographe au destin incroyable. Mais d'abord, on fait le point sur l'information et c'est le journal de la rédaction avec vous Thomas Cluzel et rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. C'est un événement, jamais depuis un quart de siècle en France, le parc nucléaire n'avait connu de nouveaux couplages. Ce sera le cas en fin de journée avec le raccordement de l'EPR de Flamanville au réseau national, mais pas forcément, on le verra au moment le plus opportun. Après le verdict hier au procès d'idée viol de Mazan et dans l'attente de celui sur l'assassinat de Samuel Paty, aujourd'hui on se demandera jusqu'à quel point ces deux affaires retentissantes marquent une étape importante pour l'institution judiciaire. On en parlera avec notre invité, l'ancien magistrat Denis Salas. Et puis l'actualité à l'étranger, la chute du régime de Bachar al-Assad tout d'abord continue de soulever de multiples doutes quant aux intentions réelles des nouveaux maîtres de la Syrie. Enfin, on reviendra sur le coup de poker raté de Donald Trump aux États-Unis qui pourrait dès ce soir conduire à une paralysie budgétaire totale. Après 17 ans de travaux, dont 12 années de retard, c'est donc le jour J pour l'EPR de Flamanville, en fin de journée au dernier jour de l'automne, après avoir été promis avant la fin de l'été, le premier couplage au réseau du réacteur nucléaire de nouvelle génération devrait enfin avoir lieu. Alors cela ne signifie pas pour autant qu'il fonctionnera tout de suite à 100% de sa capacité. Différents paliers de puissance devront être atteints jusqu'à l'été 2025, qui solderont alors la phase d'essai. Mais à tout le moins, cette journée marque un aboutissement pour ce chantier dont les nombreux déboires techniques ont fait exploser les délais, comme la facture désormais estimée à plus de 13 milliards d'euros, soit 4 fois le devis initial. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Thomas.
Cela faisait un quart de siècle que la France, donc le pays au monde qui compte le plus de centrales nucléaires par habitant, n'avait pas fait démarrer un nouveau réacteur. Sauf que l'arrivée sur le réseau de ce réacteur le plus puissant du parc français intervient alors même que la consommation d'électricité du pays est en retrait. Comment, Valentin, expliquer ce paradoxe ?
Bien, nous aurions eu en effet plus besoin de cette nouvelle centrale. En 2022, souvenez-vous des consignes laconiques dispensées par l'exécutif et EDF. Je baisse, j'éteins, je décale. Martelé comme un mantra face à une production électrique en grande difficulté. Il y a deux ans, les turbines hydrauliques tournent moins bien du fait des sécheresses et surtout la corrosion attaque les réacteurs nucléaires. Au plus fort de la crise, EDF perd la moitié de son parc. Côté gaz, ce n'est pas mieux. La manne russe se rétrécit après l'invasion de l'Ukraine et les sanctions. Mais depuis, le gaz naturel liquéfié a en partie remplacé le gaz russe. Il représente 60% des importations venues du Qatar ou des États-Unis contre un tiers avant 2022. Et sur le volet électrique, EDF a dépêché des ingénieurs américains, notamment pour lutter à grands frais contre la corrosion, et la page semble tourner. Les renouvelables montent doucement en puissance, 22% de la consommation en 2023, 2 points de plus que l'année précédente. Ajoutez des efforts de sobriété portés par l'industrie, moins 10% de consommation attendue cette année, et Flamanville débarque en terrain déminé. Néanmoins, on devra compter sur le EPR à l'avenir. D'abord, à court terme, nous exportons vers Berlin ou Londres. EDF va battre de 15% son record historique d'exportation. Et à moyen terme, la décarbonation surtout va entraîner des besoins gigantesques si l'expansion des véhicules électriques n'est pas aussi rapide que prévu, ce qui explique d'ailleurs le creux de la consommation. Elle devra avoir lieu. L'industrie lourde, les transports publics, le logement devront s'électrifier et le numérique exploser. RTE prévoit de 15 à 60% de besoins supplémentaires en 2050. On n'aura pas trop alors d'un Flamanville à pleine puissance et des 6 nouveaux EPR annoncés par Emmanuel Macron.
Merci Valentin Gris.
Malgré l'adoption cette semaine au Parlement d'une loi spéciale permettant la continuité de l'État, la question budgétaire n'en reste pas moins entière.
En l'occurrence, le nouveau Premier ministre devra même la prendre à bras-le-corps dès la rentrée prochaine. Reste à savoir évidemment avec quel gouvernement. Hier, François Bayrou, acculé de toutes parts après des débuts controversés, a promis de présenter une équipe avant Noël. Selon lui, le chemin existe pour dégager une majorité malgré une assemblée presque irréconciliable. Pour cela, il multiplie les mains tendues à droite et à gauche, sauf que les oppositions, qui jusque-là ne semblent pas franchement convaincues, n'ont toujours pas officialisé leur choix. Après 7 semaines d'audience, c'est aujourd'hui que la Cour d'assises spéciale de Paris doit annoncer son verdict à l'encontre des 8 accusés soupçonnés d'être impliqués à des degrés divers dans l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur décapité par un jeune islamiste radicalisé. C'était le 16 octobre 2020. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Denis Salas, ancien magistrat enseignant associé à l'École nationale de la magistrature. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Le verdict est attendu en toute fin de journée. Un verdict d'ailleurs encore assez imprévisible. Pour quelle raison ?
Parce qu'il va y avoir une discussion sur le sens que l'on va donner à cette fatwa numérique qui est au centre du procès Paty. Il y aura un débat, manifestement, que la Cour devra trancher entre la thèse de la défense qui soutient qu'effectivement les différents protagonistes ne sont pas impliqués dans la chaîne de causalité qui a conduit à l'attentat, qui n'ont aucun lien avec l'assassin en particulier, et puis la thèse du parquet, qui de son côté soutient au contraire que les deux individus en question, le militant islamiste et le père de la jeune fille à l'origine de laquelle le crime a été commis, ont participé à une entente en vue de projeter un attentat terroriste, sans forcément connaître les modalités. Le parquet a souligné qu'ils ont participé à un ciblage viral et violent conduisant à l'attentat, je les cite.
Alors c'est vrai que les plaidoiries de la défense ont mis en évidence la complexité de la notion d'association de malfaiteurs terroristes. Au-delà, quels sont selon vous les principaux enjeux que vous scruterez à l'annonce donc du verdict ce soir ? Est-ce qu'il est susceptible par exemple de marquer une étape importante dans la façon dont on juge du terrorisme en France ?
Oui, manifestement, il y a une attente très forte, parfois suscitant des controverses dans le prétoire et en dehors du prétoire sur l'attente, en particulier dans ce procès, de sévérité. Le parquet a été remis en question par certains avocats de la défense sur la relative indulgence ou la disqualification de certaines infractions qui auraient dû être, selon eux, plus exigeantes. Donc, Il y a cet premier enjeu, et il y a un autre enjeu important à mes yeux, qui est à quel point ce procès de Paris, mais aussi le procès d'Avignon, qui vient de se conclure, traduit une nouvelle place de la justice dans notre vie démocratique. Une exigence de visibilité beaucoup plus forte sur la manière dont on juge et dont on défend, qui me semble tout à fait forte aujourd'hui, et puis de lisibilité. On va vouloir comprendre le sens des décisions, notamment des peines qui ont été prononcées, et très souvent, c'est une question qui se pose après les procès. Donc il y a au fond, dans ces deux procès, celui de Paris et celui d'Avignon, une nouvelle place de la justice dans la vie démocratique. Ce n'est plus une boîte noire, elle prend place dans l'espace public en général, et je pense que l'ampleur du public à Paris dans cette salle grand procès que j'ai vue à plusieurs reprises pleine au cours des audiences et à Avignon avec 350 journalistes accrédités montre l'intérêt aujourd'hui qui est porté à la justice, surtout quand elle doit juger des grands interdits fondamentaux comme les crimes de sexe, le viol ou le crime de sang que sont les attentats terroristes.
Et dans quelle mesure peut-être aussi ces deux procès témoignent du poids grandissant des victimes ?
Oui, tout à fait. Et peut-être d'une différence aussi. Parce que j'ai remarqué qu'on n'interroge pas de la même manière les victimes d'attentats dans un procès de terrorisme. On respecte énormément leur silence, qu'on les écoute d'une manière attentive et presque religieuse parfois, alors que les victimes de terroristes sont de violences sexuelles sont beaucoup plus en quelque sorte questionnées sur leur passé, sur leur comportement, sur leur participation à l'acte lui-même par notamment la défense des auteurs. Donc, de ce point de vue-là, il y a une réflexion à mener, je dirais, sur l'éthique de la défense, en particulier celle qui officie pour les auteurs de violences sexuelles.
Une dernière question, Denis Salas, dans ces deux procès, donc celui dit des viols de Mazan et celui de l'assassinat de Samuel Paty, à chaque fois, la cour d'assises était composée de magistrats professionnels. Est-ce que nous serions en train d'assister à la fin des jurys populaires ?
Non, parce que les jurés populaires, en tout cas dans le cas des cours criminels, interviennent en appel. Il y a déjà, à ma connaissance, déjà deux ou trois appels qui sont annoncés à Avignon. Et puis, je dirais aussi que peut-être effectivement l'absence des jurés est là, mais elle est contrebalancée, je dirais, par la vigilance du public. Une exigence citoyenne forte vis-à-vis de la justice qui vient en quelque sorte remplacer la participation citoyenne des jurés. Il y a une réflexion à mener sur cette double évolution, exigence accrue dans la vigilance des procès et du suivi des procès, à défaut d'une participation le sont encore les jurés dans les cours d'assises classiques.
C'est bien noté. Merci Denis Salas, ancien magistrat et enseignant, je le rappelle, associé à l'École nationale de la magistrature, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louis Guérin pour la préparation.
Au sixième jour de la catastrophe, Mayotte continue de compter ses morts.
Et ce, même si les autorités n'ont toujours pas pu établir d'estimation sur le nombre exact de victimes. De son côté, Emmanuel Macron a finalement prolongé jusqu'à ce matin encore sa visite sur l'île dévastée où depuis hier, au milieu d'un champ de ruines, il aura été confronté tout à la fois à l'impatience, le désespoir, mais aussi la colère des sinistrés face à ce qu'ils perçoivent aujourd'hui comme la négligence chronique et coupable de l'État français, dont beaucoup estiment qu'il les a depuis longtemps abandonnés. Alors je le disais, il est encore trop tôt pour déterminer le nombre de victimes après le passage du cyclone, et c'est en substance qu'a rappelé ce matin la ministre des missionnaires de la Santé, invitée de nos confrères de France Info, Geneviève Darrieussecq, qui précise qu'une part importante de personnel de santé ou hospitalier de l'archipel notamment est toujours absente.
Au niveau de l'hôpital lui-même, il y a à peu près 17% des personnels dont on est sans nouvelles. Et au niveau de l'Agence régionale de santé, il y a encore 40% de personnels dont on est sans nouvelles. Ça représente à peu près 70 personnes.
Qui ne sont pas forcément décédées, ça peut être des personnes dont on n'a plus de nouvelles de lien.
Absolument, ça peut être des personnes isolées, des personnes sans capacité de recharger un téléphone ou sans téléphone. Voilà, progressivement, les contacts se nouent et se font. C'est une affaire de temps en définitive et de déblocage des situations d'isolement. Côté décédés, le bilan ne bouge pas, c'est-à-dire que nous avons toujours 24 personnes décédées à l'hôpital et 9 qui ont été identifiées dans d'autres communes. Je pense que c'est les investigations sur le terrain, dès qu'elles seront possibles et qu'elles seront massives en définitive, que nous aurons un bilan qui nous paraîtrait plus juste. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas ces informations parce que nous avons besoin, et d'ailleurs le préfet a mis en œuvre une mission particulière dans ce sens-là, dans tous les quartiers, dans toutes les communes de recensement.
Voilà, la ministre démissionnaire de la Santé, Geneviève Darrieussecq. Alors, au-delà du recensement des morts et de la gestion, bien sûr, des besoins immédiats, Emmanuel Macron a lui promis de rebâtir Mayotte. Pour cela, le président a annoncé une loi spéciale destinée à accélérer les délais, ou dit autrement, à déroger aux règles pour faciliter les chantiers, à l'instar d'ailleurs de ce qui a été fait pour organiser les Jeux Olympiques ou bien reconstruire Notre-Dame de Paris. On a été capable de rebâtir notre cathédrale en 5 ans. Ce serait quand même un drame qu'on n'arrive pas à rebâtir Mayotte, a notamment glissé le chef de l'État. Alors s'agissant justement de la restauration de Notre-Dame, voilà que celle-ci pose désormais la question de la sauvegarde du reste des églises partout sur le territoire. Selon l'Observatoire du patrimoine religieux, sur les 40 000 édifices religieux à la charge des communes françaises, 5 000 églises seraient sur le point d'être abandonnées, vendues ou détruites d'ici à 2030. Pourquoi ? Parce que les devis de travaux sont bien souvent de plusieurs centaines de milliers d'euros. Or, malgré les aides de l'État, des régions, des départements, malgré les collectes de dons, malgré certains événements comme le loto du patrimoine, eh bien les maires ne parviennent pas à réunir les fonds nécessaires. C'est le cas en particulier de Laetitia Dehan, maire d'Éclusiers-Vaux, un petit village dans la Somme où l'église n'est plus ouverte au public à cause du risque de chute de pierre. Et c'est ainsi qu'à contre-cœur, elle envisage une solution radicale, la faire détruire.
C'est un crève-cœur, mais bon, j'ai des souvenirs ici, j'ai baptisé mon fils, il a 12 ans aujourd'hui, donc il y a 11 ans, Et même pour les habitants de la commune, je vois, je pense à Madame Derly qui est née ici et qui vit encore ici. Et c'est compliqué aussi pour elle. Maintenant, ils sont quand même conscients que l'argent tombe pas du ciel et qu'une rénovation, c'est pas dans les moyens de la commune. C'est pas moi qui l'ai chiffré, hein. On en avait parlé avec l'architecte du patrimoine, de la Fondation du patrimoine, entre 4 et 500 000 euros au minimum. Et pour faire une expertise un peu plus poussée, il faut entre 20 et 30 000 euros pour faire venir quelqu'un. Pareil, 20-30 000 euros, c'est ce que éventuellement ça coûterait pour la détruire. Alors là, on parle argent. L'argent nous fait défaut. Dépenser de l'argent, ne serait-ce que 500 000 euros éventuellement d'aide publique via la Fondation du patrimoine, pour une messe par an, ça pérennise pas l'argent public. Et ça, c'est quelque chose qui... En tant que comptable, hein, la pérennisation d'abord et on voit ensuite ce qu'on peut faire. Un don anonyme, moi, me conviendrait très bien. Hein. S'il y a une décision à prendre, les habitants sont au courant, même mon employé est au courant. S'il y a une décision à prendre à un moment donné, ben, on la fera détruire malheureusement, oui. Oui, malheureusement.
Voilà, Laetitia Dehan, maire d'Éclusiers-Vaux dans la Somme, au micro d'Adrien Toffolet, à réécouter ce soir à 17h dans le grand reportage de la rédaction Église en péril. Qui est prêt à payer?
Midi et 44 minutes, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Chaque jour qui passe en Syrie, depuis la chute inattendue de Bachar al-Assad, une nouvelle découverte met toujours les décennies de tyrannie et de torture du régime de Damas. Après les horreurs du système carcéral, plusieurs charniers ont été découverts à travers le pays, raison aussi pour laquelle, au moment de regarder désormais vers une transition politique, il convient de rester malgré tout vigilant, et en particulier face à la soudaine et possiblement suspecte métamorphose des nouveaux maîtres de la Syrie, dominés par les islamistes radicaux d'HTS, devenus des rebelles modérés et tolérants. Alors cette semaine, la France a envoyé une première délégation diplomatique dans la capitale pour prendre langue avec les nouvelles autorités, et quand bien même le drapeau tricolore flotte désormais, c'est vrai, sur sa représentation diplomatique, Paris, Christian Chesneau, avance encore avec prudence dans la Syrie post-Assad.
La réouverture officielle de l'ambassade de France à Damas n'est pas à l'ordre du jour. D'abord, parce qu'elle n'est pas en état de fonctionner après 12 ans de fermeture. Et puis, il y a l'inconnu sécuritaire. La France ne veut pas revivre l'expérience libyenne et l'attentat contre sa représentation diplomatique à Tripoli après la chute de Kadhafi. Les forces de sécurité syriennes n'ont pas encore la maîtrise de la situation, alors que les deux tiers du territoire échappent au contrôle du nouveau pouvoir. Le risque d'infiltration d'éléments terroristes de Daesh et d'Al-Qaïda est grand dans cette Syrie ouverte à tous les vents. Bref, la France remet les pieds avec la plus grande prudence en Syrie. La délégation du Quai d'Orsay, envoyée à Damas cette semaine, n'a pas souhaité rencontrer Mohamed El-Joulani, l'homme fort du nouveau pouvoir, comme si elle ne voulait pas légitimer trop vite les nouvelles autorités encore floues sur leurs intentions, au-delà d'éléments de langage qui se veulent rassurants vis-à-vis de l'extérieur. Paris a donc décidé de se hâter avec lenteur, en attendant les premiers actes des nouveaux maîtres de Damas pour s'engager plus loin.
Et j'ajoute que des diplomates américains, cette fois-ci, sont arrivés aujourd'hui en Syrie pour y rencontrer les nouvelles autorités dans l'espoir de les pousser à réunifier le pays. Sur fond de drame humanitaire, l'espoir ténu d'une trêve serait-il en train de naître à Gaza? Des discussions ont lieu en ce moment même à Doha, des négociations qualifiées de sérieuses et positives par le Hamas, mais pas seulement, puisque selon le nouveau ministre israélien de la Défense, les négociateurs n'auraient jamais été aussi proches d'un accord.
Le temps presse avant l'heure fatidique.
Sans accord budgétaire avant ce soir, minuit, les États-Unis entreront en période de shutdown. En clair, et le cas échéant, tous les services publics fédéraux cesseront de fonctionner. Un scénario évidemment catastrophe, qui plus est juste avant Noël, est rendu possible après que Donald Trump a torpillé cette semaine un précédent projet de loi négocié entre démocrates et républicains. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Décidément, le nouveau président élu, donc, mais toujours pas investi, rappelle chaque jour, Claude, sa capacité unique à faire régner l'incertitude.
Oui, l'incertitude et le chaos, hein. C'était déjà la marque de fabrique du premier mandat de Donald Trump. Et pas encore investi, vous le disiez, le président élu montre ces jours-ci à quel point il a déjà pris la main sur la marche du pays, avec ce couperet qui pourrait donc entraîner dès ce soir la mise au chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires, le gel des aides, la paralysie, vous le disiez aussi, des services publics. en clair, alors qu'un accord bipartisan avait été négocié mardi pour éviter ce shutdown avant Noël, eh bien il a été littéralement torpillé mercredi par Donald Trump, qu'il a jugé ridicule et exagérément coûteux, torpillé par Donald Trump et Elon Musk, qui a lui exhorté les élus à tuer le texte qui prévoyait notamment une enveloppe d'aide aux États récemment sinistrés par des catastrophes naturelles. Elon Musk, que d'ailleurs beaucoup qualifient désormais de président bis, tant son influence est forte sur Donald Trump. En fait, ce que voudrait Donald Trump, c'est un report de l'échéance sur le plafond de la dette qui arrive à terme en janvier. Et c'est ce plafond à partir duquel les États-Unis ne peuvent plus emprunter. Il devrait être atteint en juin prochain et Donald Trump exige donc que cette échéance soit à nouveau suspendue, reportée. Les Républicains ont donc proposé un nouveau texte budgétaire qui comporte cette clause, mais la Chambre des représentants, pourtant majoritairement républicaine, l'a à nouveau rejetée. Et les États-Unis se réveillent donc là en ce moment dans cette incertitude qu'ils ont déjà connue 21 fois depuis le premier shutdown, c'était en 1976, et le plus long date de 2018, plus d'un mois d'arrêt après l'échec des négociations entre le Congrès et la Maison Blanche, sur quoi? Eh bien, le financement d'un mur à la construction à la frontière mexicaine, ce mur qui avait été décidé, eh oui, par Donald Trump.
Merci Claude Guibal. La Malaisie a autorisé la reprise des recherches du vol MH370, mystérieusement disparu il y a 10 ans, avec plus de 200 personnes à son bord. Une société spécialisée dans la robotique marine effectuera des recherches dans une nouvelle zone estimée à 15 000 km² dans le sud de l'océan Indien. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Le soleil continuera de briller dans le sud-est, ciel couvert en revanche près des côtes de la Manche, avec des averses possibles. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies quant aux températures. Elles seront comprises entre 4 et 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommé. À 18h, vous avez rendez-vous avec Héloïse Roger pour le prochain journal de la rédaction.
Merci Thomas Cluzel. Bon week-end.
Bon week-end.
En route pour la fin du voyage des midis du vendredi. Tout à l'heure, on quittera la terre ferme avec Anita Conti, croquée par Catel. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour à tous. Les salariés de l'Opéra de Paris ont entamé hier un mouvement de grève pour dénoncer notamment le sous-effectif dans certains services. Alors que vient de sortir aux éditions Gallimard et France Musique un portrait de Stéphane Lissner, ancien directeur de l'Opéra de Paris. Comme lui, tous les acteurs du milieu sont inquiets pour la survie du genre opératique, comme on le connaît aujourd'hui. Alors quid de l'opéra demain? C'est le dossier du Point Culture du jour. Stéphane Lissner, bonjour.
Bonjour.
Vous avez dirigé le Châtelet, le Festival d'Aix-en-Provence, la Scala de Milan, l'Opéra de Paris. Alors cette carrière vous permet aujourd'hui d'avoir un regard précieux sur l'évolution de l'opéra en tant que genre et en tant qu'institution. Alors peut-être artistiquement d'abord, vous avez proposé à des metteurs en scène de théâtre de se frotter à des œuvres opératiques. Avec le recul, qu'est-ce que ce changement a permis?
Bon, d'abord, avant moi... Rolf Liebermann, à l'Opéra de Paris, bien sûr, avait été un des premiers à inviter des grands metteurs en scène à réfléchir sur l'opéra, c'est-à-dire à proposer des lectures peut-être plus modernes, et en tout cas plus en relation avec leur époque. Ensuite, il y a eu effectivement d'autres personnalités qui ont continué ce travail. Moi, ce que j'ai cherché, c'est surtout à réfléchir sur l'intérêt que pouvait avoir, au fond, le spectateur à venir écouter de l'opéra. Qu'est-ce qui fait qu'au fond, on a envie d'écouter un opéra? Une partie, c'est pour la voix, et une partie, c'est pour la musique, la voix, et puis une partie, c'est pour le théâtre, et puis une partie, c'est peut-être pour le tout. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était avoir une exigence aussi importante au même niveau pour le théâtre et pour la musique.
On a parfois l'impression que l'opéra est une forme figée. Est-ce que vous pensez qu'il peut encore se renouveler?
Non, je pense que l'opéra est une forme figée. Je pense que les maisons d'opéra sont un peu bloquées. Il y a eu des créations au XXe et au XXIe siècle, bien sûr très importantes. Le XXe siècle restera pour moi un des siècles les plus importants pour l'opéra.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Oh ben, je pense aux deux opéras de Berg, je pense à Debussy, je pense à Bartok... même s'il a fait que le château de Barbe Bleue, je pense à Strauss. Il y a vraiment beaucoup de très grands compositeurs, et puis les Slaves, bien sûr, il y a la Tchèque et autres. Donc il y a des grands compositeurs au XXe siècle qui vont rester, et ils vont rester pour leur musique, mais aussi pour l'intérêt des livrets. Car je crois que si on prend les deux grandes aventures solitaires de Loulou et de Vossek, on voit bien que ça intéresse aussi la nouvelle génération et sont des œuvres qui parlent effectivement à un public plus jeune, plus moderne. Et donc, même si d'ailleurs le public conservateur, qui est grandement majoritaire, reste un petit peu et toujours même, je dirais, réfractaire à ses œuvres.
Vous voulez dire qu'en fait, c'est par le livret que l'opéra pourra ou peut renouveler ses publics ?
Oui, je pense que oui, je pense que le livret et peut-être la forme. Peut-être la forme, je sais que j'ai choqué parfois en parlant de la forme et en parlant de la durée de certaines œuvres. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, pour les raisons qui sont liées bien évidemment au changement, au numérique, mais à tellement d'autres changements et on vit dans un tempo différent de celui d'avant. Ce tempo, il est malheureusement, on peut le regretter, parfois assez, il crée de la superficialité, il crée peut-être un manque de profondeur, c'est sûr, mais peut-être on doit réfléchir aux œuvres d'opéra et on doit réfléchir peut-être effectivement à leur forme, à leur durée. Il y a des chefs-d'œuvre, je vais encore choquer sûrement en disant ça, un chef-d'œuvre comme Così fan tutte, qui est pour moi une des plus belles musiques dans l'histoire de l'opéra, c'est 4 heures. Est-ce que aujourd'hui le public qui n'est pas averti, qui ne baigne pas dans cette culture, qui n'a pas les codes, qui n'a pas vécu avec ce monde-là, est-ce qu'il peut accepter de rester concentré pendant 4 heures? J'ai beaucoup de doutes, et c'est pour ça que je pense qu'on pourrait réfléchir effectivement à des nouvelles formes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'accessibilité. Bon, j'enfonce une porte ouverte, mais les prix de l'opéra sont tellement élevés que 90% de la population ne peut pas accéder à l'opéra. Ça, c'est une réalité.
Mais alors, de quoi on parle quand on parle d'opéra populaire ?
Alors, bah, quand on parle d'opéra populaire, on se raconte un peu des histoires parce qu'on imagine que en augmentant le nombre de places, en passant de Garnier à l'Opéra Bastille, on fait de l'opéra populaire. Mais si l'opéra populaire, c'est la première catégorie à 240 euros, je ne sais pas très bien qu'est-ce que ça veut dire, l'opéra populaire. Ensuite, il y a des œuvres populaires. Elles sont d'ailleurs peu nombreuses. Elles sont peu nombreuses, les œuvres populaires. Donc, l'opéra populaire, je crois, c'est un mythe, c'est quelque chose qui n'existe pas, en tout cas aujourd'hui, parce qu'il a existé. Si on prend l'histoire de l'Italie, l'Italie a été, bien sûr, le berceau du lyrique, mais il a été, pendant une grande période, populaire, effectivement. Mais pour ça, il faut revoir ça. Et puis, le troisième élément qui est très important, c'est l'espace. Je suis convaincu aussi que l'espace tel qu'il est, ce rapport frontal tel qu'il est aujourd'hui, empêche aussi un certain nombre de nouvelles formes d'opéra. Et
ça voudrait dire qu'il faudrait sortir l'opéra de l'institution, d'aller jouer des opéras ailleurs ?
Oui, je pense qu'on devrait aussi réfléchir à ça. On a des expériences qui sont, par exemple, qui s'est passé pour la Ruhr Triennale, où là, on a pu voir que des spectacles, par exemple, je pense à la Maison des Morts qu'avait fait Tcherniakov, je pense au Moïse et Aaron, je peux citer plein d'exemples. Ce sont des œuvres du répertoire. Et pourtant, elles ont été imaginées dans des lieux industriels qui créent un rapport avec le spectateur différent. Le spectateur n'entre plus dans un théâtre sacré, il entre dans un espace qui pourrait, au fond, ce n'est pas un théâtre, c'est un lieu, et ce lieu-là, il n'est pas imprégné d'une histoire qui, pour beaucoup, déjà, est un empêchement. Entrer dans un opéra, entrer à l'Opéra Garnier, c'est intimidant. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à réfléchir sur, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la durée, la forme, le lieu, l'accessibilité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais il va falloir faire quelque chose, parce que vous voyez bien que les États européens sont en train de diminuer partout leurs subventions de la culture.
Tous les opéras en France ou ailleurs sont dans des situations économiques très difficiles. On se demande même si le...
Ça ne va pas s'arranger. En France, par exemple, ça ne peut pas s'arranger. Avec un État endetté comme il est, c'est pas l'opéra en plus coûte très cher, beaucoup plus cher que le théâtre. Et donc
la forme opéra telle qu'elle est aujourd'hui est en danger. Il faut qu'on la sorte de ces murs-là.
Ah, je suis convaincu, oui. J'en suis convaincu. Oui. Bon, on le voit. Je l'ai vécu, moi, avec l'expérience de l'Opéra de Paris. Aujourd'hui, le financement de l'Opéra de Paris de l'État, c'est 40%. Quand il arrive des grèves, les gilets jaunes, puis le Covid, etc., bah, il a fallu renflouer de plusieurs dizaines de millions, plus de 100 millions, il a fallu renflouer l'opéra. Pourquoi ? Bah, parce qu'avec 40% de financement public et 60% d'autofinancement, on voit très bien que peu à peu, la qualité est en train de diminuer. Et de toute façon, la qualité diminue à partir du moment où l'État n'est plus même capable de prendre en charge le fonctionnement de l'opéra. Je ne parle pas de produire, je parle juste de fonctionnement, c'est-à-dire des dépenses générales.
Bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Stéphane Lissner.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, le Rassemblement National pointé du doigt à propos du livre de Jordan Bardella.
Le Canard Enchaîné vient de révéler que le RN offrait un exemplaire de l'ouvrage de Jordan Bardella pour chaque don supérieur à 50 euros. Or, la loi interdit de recevoir une contrepartie pour un don de plus de 150 euros à un parti politique. Et elle interdit aussi de recevoir un quelconque cadeau si le don bénéficie d'une déduction fiscale. Donc une pratique illégale, mais qui permet d'augmenter le nombre de ventes du livre de son président. Ce que je cherche, publié en novembre dernier chez Fayard, s'est déjà écoulé à plus de 140 000 exemplaires.
Grâce à une association, des artistes peuvent rencontrer des élèves de leurs anciens établissements scolaires.
Oui, Télérama revient dans un reportage sur cette initiative créée en 2012 par l'association Un artiste à l'école. Son concept est simple, proposer chaque année à une trentaine d'artistes et de professionnels du monde de la culture de retourner dans leur ancien lycée pour s'entretenir avec des élèves. Pour l'édition 2024-2025, y participent notamment la comédienne Valérie Lessort, le réalisateur Cédric Kahn ou encore la cinéaste Valérie Donzelli. Cette rencontre est l'occasion pour ces artistes de revenir sur leur parcours et de répondre aux questions des élèves, une manière de désacraliser le métier d'artiste et de susciter des vocations.
Et pour finir, Marie, Eva Jospin vient d'être élue à l'Académie des Beaux-Arts.
Oui, l'artiste de 49 ans a été nommée ce mercredi dans la section sculpture qui compte 7 membres. Elle prendra place au fauteuil numéro 1, précédemment occupé par Jean Cardo, et elle siègera